Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une femme qui témoigne de son chemin de deuil et de foi depuis la mort accidentelle de sa fille Aurélie, fille unique, elle-même mère de 7 enfants. Elle le fait dans un livre paru chez MAM et qui s'intitule « Oui, la vie éternelle existe », livre dans lequel elle évoque le choix quotidien de la vie en Dieu plutôt que la désespérance. Dominique Rère, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai envie, pour commencer, de vous demander, parce qu'au fond, bon, le deuil que vous vivez est particulièrement douloureux, mais il y a des centaines de milliers d'endeuillés chaque année. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Quelle est la visée de ce témoignage?
Alors, effectivement, c'est un témoignage vécu. Ce n'est pas un discours sur la mort, sur la perte, c'est un témoignage charnel, vécu. Dans l'épaisseur de la vie. Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu tout de suite, dès que j'ai appris, donc 3 jours avant, pendant le coma, hein, on a su 3 jours avant le départ d'Aurélie que c'était joué, eh bien, j'ai senti tout de suite la certitude qu'il ne fallait pas se laisser abattre, mais que c'était une entrée dans la vie éternelle. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient, ça m'a traversée. C'est-à-dire que j'ai senti que c'était une grâce immense qui allait m'être donnée, ainsi qu'à mon époux, qui allait changer notre vie dans la mesure où une grande fenêtre s'est ouverte sur la vie éternelle. Et je me suis dit, ça, il faut le vivre.
Voilà. Alors,
et donc, oui, je vous
non,
en prie.
Le vivre, c'est bien sûr évoquer la question de la communion des saints, c'est-à-dire cette relation possible avec nos défunts. Et vous le faites d'une manière bien particulière, parce que vous dites qu'il faut, à ce désir tout naturel de communication avec les défunts, préférer la convocation en Jésus et Marie pour vivre une communion sans cesse renouvelée.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, effectivement, Monseigneur Gobillard, qui était là par grâce hein, pour vivre tout ça avec nous, nous a tout de suite enseigné sur la notion de continuité. Et pour vivre, alors d'abord la continuité, c'est la continuité de l'amour. Hein. Quand on perd un être cher, on est toujours rempli de l'amour pour lui. Hein. Ce n'est pas le départ de l'enveloppe charnelle qui enlève cet amour. Donc si vous voulez, cet amour nous pousse à continuer à vivre quelque chose avec la personne. Et donc, eh bien, tout naturellement, Monseigneur Gobillard plongé dans cette foi, dans l'amour de Dieu, nous a dit « Rien n'est fini, vous pouvez convoquer votre fille, votre mère, mes enfants. » Il y avait les 7 enfants réunis quand il nous a dit ça le soir du départ d'Aurélie. Et alors, convoquer, a-t-il dit, n'est pas invoquer. Ce n'est pas une déesse, ce n'est pas une sainte, enfin, elle est peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas canonisée. Bon, ce que veut dire Monseigneur Gobillard, c'est que convocare, c'est appeler avec tous les saints. Ce n'est pas invoquer quelqu'un comme on invoquerait l'Esprit Saint. Vous comprenez, c'est convoquer. Il y a une espèce de dialogue qui s'instaure, mais d'abord, par Jésus, par Marie, c'est dans la prière. Tous les matins, on prie ensemble, mon mari et moi, et on demande vraiment la grâce dans la prière. C'est-à-dire, on prie d'abord Marie, on prie le Père, et sur ce canal, sur l'amour qui nous est donné, on y va. Mais c'est simple, hein? C'est ça, on ne fait pas des discours. De toute façon, ça ne sert plus à rien, les discours, hein, vous vous doutez.
C'est l'incarnation qui compte. Alors, vous parlez effectivement de Monseigneur Gobillard, cousin germain de votre gendre. Et alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il a dit. D'abord, il y a ce poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'il cite le jour des obsèques dans son homélie. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Pourquoi commencer par ça? Quel était le sens de ce rappel que nous sommes tous invités à vivre l'instant?
Il l'a fait d'abord parce que la famille a une grande dévotion à la petite Thérèse. Donc il était, il baignait dans cette dévotion. Donc ça l'a un petit peu porté à nous raccrocher à Thérèse qui fait partie de la vie des enfants et de la vie de ma fille qui est au ciel. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il est simple de comprendre que quand on est face à un départ, on est face à un passager. Ça nous renvoie à une réalité absolue qui est qu'on n'est que de passage. Nous ne sommes pas citoyens de cette terre. Et dans ces moments privilégiés de la séparation avec quelqu'un qui est notre propre chair, eh bien nous le vivons. Nous le vivons, on voit bien qu'elle part. On ne peut pas dénier ça. Elle est partie. elle n'est pas morte au sens point final, la mort a le dernier mot, elle est partie. C'est-à-dire que ce qui est mort, bah, c'est son enveloppe charnelle, quoi. Vous savez très bien, de ça, on en fait une expérience aiguë, hein. Parce que quand on va à la morgue voir le corps mort, on voit très bien qu'elle n'est pas là. Ouais. Elle n'est pas là. Et l'âme est partie.
Et du coup, le thème du détachement, alors là, c'est encore une pépite supplémentaire dans ces paroles que le père Gobillard a prononcées dans son homélie.
C'est très beau.
Ce détachement et l'insistance qu'il porte dans ces circonstances-là à la vraie éducation, celle qui consiste à éduquer à la liberté, celle qui consiste, au fond, à accepter de diminuer pour que le Christ grandisse en nous. C'est magnifique, ça, parce que c'est vrai que la tentation de la possession, super. Elle est tout le temps là.
C'est le combat. C'est se détacher de soi-même, de son ego, de ses émotions, de ses souvenirs, du passé qui revient comme une vague, bien sûr. Hein. C'est le flux et reflux de la mémoire, de l'imaginaire. Mais ça, c'est un combat à mener. Parce que est-ce qu'on veut la mort ou est-ce qu'on veut la vie? Si on garde derrière, c'est la mort. Si on garde devant, c'est la vie éternelle. Donc ce combat, Mgr Gobillard nous l'a bien exprimé, c'est une question qui va revenir toujours jusqu'à notre propre fin sur Terre. Il va falloir le mener pour choisir la vie. J'ai cité Deutéronome au début de mon livre, et ça, je l'ai reçu très, très vite, très fort. Est-ce que c'est la vie ou la mort que tu veux? Et choisis donc, voyez, le Seigneur nous exhorte à choisir le bon plan. Choisis donc la vie pour que toi et les tiens vous viviez. C'est quand même pas une question mineure, c'est une question de survie au sens propre.
Retrouver Aurélie, pour vous, c'est être davantage et toujours davantage en Dieu dans le quotidien de votre vie?
Davantage, j'espère. Humblement, j'espère. En tout cas, je ne l'ai pas perdue. Donc, retrouver, elle est là. Elle est là. Alors, attention, on ne fait pas de panthéisme. Elle n'est pas dans le soleil, elle n'est pas dans la lune, elle n'est pas. Elle est invisiblement présente, de même que le Christ l'est dans l'Eucharistie. C'est sa présence, tant que je suis sur terre, m'est voilée. Mais elle est présente. J'ai donné quelques petits signes pour montrer qu'au début, j'étais émerveillée, mais je le suis toujours. Elle est présente par une rencontre, par des jaillissements de vie, des jaillissements totalement inopinés. C'est ça, un jaillissement, en fait. Le jaillissement de l'esprit, on ne s'y attend pas. Ouais. Et c'est comme ça. Il y a une présence. Je parle de l'Eucharistie parce que c'est très comparable. On est avec l'invisible. Il ne faut pas se tromper, vous comprenez, de combat. Ce n'est pas tout ce qui est visible, émotion, ressenti. Non, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas du tout là-dedans.
À travers ce que vous avez vécu, et ce que vous vivez encore, et ce que vous en dites, évidemment, vous tenez à un propos, je dirais, très, très éclairé, très, très religieux, très lumineux, mais qui parfois semble éblouir. C'est-à-dire, je précise, vous finissez sur des témoignages de rencontres avec des gens qui ne sont pas toujours bien consonants, ni bienveillants, ni... Enfin, en tout cas, il y a une sorte de maladresse, quelque chose qui vous blesse. Pourquoi vous avez tenu à... On a l'impression un peu que c'est comme un seau d'eau froide, quoi, qui vient à la fin pour dire, ben voilà, alors, c'est aussi ça le quotidien.
Ben, c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans le sud de la France, chez moi, dans mon village, j'ai été confrontée à la réaction des autres. Je n'étais plus dans le petit cocon familial. Or, quand j'ai annoncé que ma fille était partie au ciel, déjà le mot ciel, ça les a fait bondir. Hein. Je ne vis pas dans une France très chrétienne. Hein. Je vis dans le sud de la France. C'est un endroit où il y a plus. Je suis la seule catholique de mon village, par exemple. Enfin, on ne connaît pas le secret des cœurs. Hein. Humblement, je le dis. Mais voilà. Et donc, quand je suis rentrée, c'est là que l'heure du témoignage est arrivée. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me taire. Tout le monde croyait que j'allais être effondrée. Les gens m'ont dit des choses incroyables. Ah, ben si, heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Oh, ma pauvre, vous êtes foutue. Ben, alors, il fallait bien répondre. Et j'ai pensé qu'il fallait l'intégrer au livre parce que, justement, c'est le réel. C'est le réel de notre témoignage. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a un manque d'éducation à ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez de la vie éternelle. On n'en parle presque jamais. Et donc, les gens n'ont pas été évangélisés sur la vie éternelle. Ils ne savent pas. Ils ont une vague croyance que il doit y avoir quelque chose. Mais ce n'est pas ça du tout, la vie spirituelle. Ce n'est pas un vague machin au-dessus de nous. Alors, moi, je me suis dit, allons-y. Alors, ça fait une rupture de ton, c'est vrai. Mais en même temps, ça fait rentrer les autres. Je m'efface, là, à ce moment-là. Je ne parle plus de moi, c'est les autres, vous comprenez?
Tout à fait. Et puis, il y a aussi, parmi les autres, vos petits-enfants. Alors eux, ils sont évidemment, ils sont dans la communion, dans la peine, mais aussi dans l'espérance. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire?
Bah, ils sont merveilleux, ils m'édifient tous les jours parce que d'abord, ils ont une très grande foi que leur mère est là, ils la convoquent, ils ont une foi qu'elle les aide, que leur vie avec elle n'est pas terminée. C'est le vivre tous les jours. Hein. Alors, c'est beau parce qu'on parle d'Aurélie, hein. On parle de ce qu'elle disait, de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle doit faire. Et on lui confie des choses, des intentions ensemble. Ah, ça nous a énormément soudés. Mais enfin, on était déjà très unis. Mais mon gendre est admirable, admirable. Il tient le coup dans sa foi. Vous savez, tous les jours, mon mari et moi, nous demandons et supplions que nous-mêmes et notre famille gardent cette foi. Ça, ça se demande tous les jours. Parce qu'on s'appuie sur la prière de Jésus qui nous dit... Voilà, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne défaille pas. Moi je m'appuie là-dessus. Il a prié, donc je vais chercher la grâce. Mais je le supplie, parce que j'ai conscience que ça ne fait que me traverser, vous comprenez? Et que j'ai intérêt à supplier pour que ça dure. Vous comprenez? C'est un combat.
Prier pour garder la foi. Vous évoquez le testament spirituel que Aurélie aurait laissé à travers un petit message, comme elle en envoyait quotidiennement à son mari, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble visage, du psaume 33.
Oui, magnifique.
Ça ramasse magnifique. Quelque chose de son...
C'est elle, c'est une femme lumineuse. C'est une femme, volontiers j'en fais le présent. C'est une femme lumineuse qui ne pouvait qu'aller à la lumière. Et voyez-vous, elle nous a vu, nous sommes adorateurs du Très-Saint-Sacrement, comme tout un chacun, tous ceux qui ont rencontré l'Eucharistie. En tout cas, elle nous a vu, elle a prié avec nous, elle était imbibée de cette spiritualité de l'invisible, et en même temps tellement visible. Mais bon, un petit rond blanc sur un mur blanc, c'est toujours pas grand-chose sur le plan charnel. Il faut qu'on fasse le saut dans l'invisible, et Aurélie le faisait.
Merci Dominique Rère. On peut vous retrouver. Oui, la vie éternelle existe, c'est paru chez MAM. Merci infiniment pour votre témoignage.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, Véronique Elzieux.
Pour terminer nos entretiens sur l'irréparable et les traces qu'il laisse dans nos vies, ce qu'Isabelle Le Bourgeois appelle l'irréparé, mon invité nous parle aujourd'hui du Christ qui lui-même, dans une certaine mesure, est irréparé.